À Dieu soit la gloire. Amen. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Dans notre vie si courte, il fait de grandes choses pour l'éternité. On va, frères et sœurs, encore ce matin parler des hommes et des femmes de foi. C'est ce que nous faisons depuis le début de l'été, en parlant de Lot, pardon, de Noé, de Jochébed, la mère de Moïse, d'Abraham, d'Isaac. Et puis aujourd'hui, on va revenir à des gens encore plus proches de nous. Le titre de la prédication, c'est « Des apôtres et des mages à l'école de Dieu, à l'école de la foi ». On ouvre la Bible ensemble. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8 et au verset 23. Évangile de Matthieu, parce que je considère que il n'y a pas que des grands exemples, des grands héros de foi qui sont parfois tellement loin de nous. La vie de Noé et ma vie, ça fait quand même deux. La vie d'Abraham, c'est la vie d'Abraham, moi c'est une autre vie. Mais dans la Bible, il y a aussi des exemples plus proches de nous. Et je pense à ces pêcheurs de la Galilée qui n'avaient pas été dans les grandes écoles, qui étaient des hommes simples, des hommes du peuple, et qui ne savaient pas que leur nom était écrit sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem dans le ciel depuis toujours. Quand ils sont nés, leur nom était écrit. Ce sont les apôtres. Alors Matthieu chapitre 8 et verset 23. Nous connaissons bien ce texte. Il monta dans la barque, donc Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il. À qui obéissent même les vents et la mer. Amen. On va prier quelques instants devant la parole de Dieu. Mets-nous à l'école de la foi, Seigneur. Fais grandir notre foi, Seigneur. Rends-nous attentifs, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous sortions de ce lieu meilleur, plus sain, plus fort, plus juste, plus attentif, plus confiant, au nom du Seigneur. Amen. J'ouvre la porte quelques instants. Voilà par exemple un geste que Noé n'a jamais fait. Il n'a pas dit dans l'arche, un petit instant, j'ouvre la porte. Voyez-vous, on a des ressemblances et on a des différences, voilà. Alors je viens de vous lire l'histoire de la tempête apaisée avec Jésus et les apôtres. J'aime ces exemples de foi avec des gens ordinaires. La foi, l'Église est composée de gens ordinaires. Je suis ordinaire, vous êtes aussi ordinaire. Mais nous sommes aussi extraordinaires, non ? Et comme eux, nous avons des élans et nous avons aussi des reculs dans la foi. Et souvent, on a envie de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen, augmente-nous la foi. Parce que parfois, c'est difficile de faire confiance, d'être tranquille, en paix. Regardez ici, la barque va couler. Parce que quand les flots sont sur la barque, ça veut dire que la barque, elle est sous les flots. Et quand une barque est sous l'eau, c'est qu'elle coule déjà. Hein. Et le plus grave dans cette histoire, c'est pas que l'eau soit dans la barque, c'est que Jésus dorme. Ça, c'est un comble. On n'a jamais vu dans l'évangile Jésus dormir. Justement, on nous le montre en train de dormir au pire moment. En fait, Jésus leur fait passer un examen. Mais un examen pas dans une classe, à l'école. Un examen dans la vie réelle. La vie réelle, c'est un examen. C'est une école. Dieu nous regarde comment nous allons réagir. Comment nous allons penser. Nous, souvent, quand on entend dire que Dieu nous met à l'épreuve dans la foi, moi, parfois, je pense à la fosse aux lions. Rien que ça. Mais la fosse aux lions, j'en vois pas tous les jours. Vous non plus. Il y a même des années, je ne suis pas allé au cirque. Mais l'examen de la vie, c'est dans la vie quotidienne. Dans la cuisine, avec le mari, la femme, les enfants, dans la rue, partout. C'est l'examen de la vie, l'examen de la foi. Ils auraient dû avoir la foi, non? Nous, on est bien placés pour le dire. C'est comme quand certains regardent un match de football, ils disent « Mais tire, mais vise, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils ne se mettent pas à la place du joueur. Et là, on a envie de dire « Mais écoutez, les apôtres, ayez confiance !» Surtout que juste avant, un capitaine de l'armée romaine, quelques heures avant, il avait dit à Jésus « Dis seulement un mot, c'est suffisant un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » C'est beau. Donc ils auraient dû dire, avec un mot, le Seigneur, il fait tout. Allez, mes frères, Thomas, Jean, Jacques, Jean, Philippe, courage. Mais là, le problème, c'est que Jésus, il dit pas un mot parce qu'il dort. C'est ça le problème. Et c'est difficile de s'en remettre au Seigneur. Comme un enfant. Quand tout semble impossible à démêler. Il y avait une petite fille qui a été un jour dans un avion, et puis un gros avion, un gros. Et tout à coup, en plein ciel, l'avion, il a eu des turbulences, vous savez ce que c'est. La petite fille, elle lisait, elle était tranquille. Il dit, mais tu n'as pas peur? Ben non, j'ai pas peur, c'est mon papa qui est le pilote. C'est beau la foi, hein, la confiance. Si papa est à la commande de l'avion, il n'y a rien à craindre. C'est ça la confiance, c'est savoir que Dieu nous aime et qu'il ne va pas permettre que nous coulions comme ça. La confiance, c'est une preuve que nous l'aimons aussi. On lui fait confiance. Amen. C'est ça la foi. Alors les marins, les douze apôtres, là, les douze pêcheurs, les douze apôtres, eh bien, ils vont crier, ils vont se débattre. Résultat de l'examen, 2 sur 20. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Oh, si Jésus nous notait, quelle note il nous donnerait? Que parfois, un petit détail de la vie, puis on panique. 2 sur 20. Eux qui sont allés avec le Christ depuis des mois et des mois et des mois. Je crois qu'il faut écouter la réprimande de Jésus. Homme de peu de foi. Il faut écouter. Pourquoi avez-vous peur? C'est en écoutant ces paroles-là qui nous reprennent, qui nous disent, mais oui, au fait, c'est vrai. C'est en les écoutant que nous allons apprendre la foi. Parce que, voyez-vous, notre vie, elle ressemble au lac de Tibériade. Parfois, il y a des remous. Il y a des tempêtes. Pourtant, on la connaît un peu, la vie, hein. Mais parfois, c'est inattendu, imprévisible. On fait un choix, on est sûr de nous, et patatras, ça ne marche pas. On décide quelque chose, tout est bien conforme, et puis ça ne marche pas. Mais nous devons savoir que nos tempêtes ne sont pas plus fortes que le Seigneur Jésus. Amen. Et que dans les tempêtes, les difficultés que nous avons sur la terre, le Seigneur nous visite. Vous le savez, ça ? nos difficultés sont des temps de visite du Seigneur. Oh, il ne le dit pas, hein. Il ne nous dit pas, attention, vous êtes en examen, attention, vous êtes testé, vous êtes filmé. Non, il ne dit rien, mais il est là et il nous observe. Et quand je sais cela, je me dis, Seigneur, je ne sens plus rien, je ne vois plus, je ne comprends plus, mais je veux rester un enfant de Dieu digne. Seigneur, ma barque va pas bien, je te fais confiance. Amen. Dieu nous visite quand on ne s'y attend pas. Quand vous lisez la Bible, quand une parole vous touche, vous réconforte, vous accroche, vous reprend, eh bien, c'est Dieu qui vous visite. Mais Jésus, il est silencieux, il ne crie pas, attention. Il dort, il nous attend, il nous regarde. Toute notre vie, pardonnez-moi l'expression, est filmée. Elle est vue de Dieu. Le Seigneur a une parole dans chaque difficulté à nous dire. Tu dors, Seigneur, la barque se bouscule là avec nos enfants, nos familles, nos santé. Mais que me dis-tu, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il y a un sens à tout, il y a une parole pour chaque difficulté. Et je pense que, quand la barque est agitée, je pense que c'est un appel de Dieu à retrouver la prière du cœur. Vous vous êtes examiné dans la prière. Souvent, nous redisons les mêmes mots. On les dit sans vraiment trop y penser. On finit par des vaines redites. On se dit, mais comment je vais retrouver la prière du début de ma conversion? Et dans les tempêtes, voici que la prière du cœur revient. La prière très sincère, le cri du cœur revient. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Je pense que les difficultés de la vie ont pour but de nous accrocher au Seigneur. Comme un enfant qui sent le danger et qui s'accroche à sa mère. Les tempêtes ont pour but de réveiller la prière, afin que nous prions de toutes nos pensées, de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Je crois aussi que la prière, elle est faite pour qu'on puisse réveiller Jésus aussi pour les autres. Les tempêtes sont faites pour qu'on dise, mais il y en a d'autres dans la tempête. Il y a tout un monde aujourd'hui qui vit dans le plaisir, qui vit dans les jeux, dans les rires. Le rire est très important aujourd'hui. On rit pour tout. Du bien, du mal, de la mort de Dieu. Et celui qui passe par la tempête, il réalise que la vie, c'est plus que cela. Et il prie pour tous ces gens qui sont dans les plaisirs et les souffrances, loin de Dieu. La tempête, la leçon de foi. Quelles sont les leçons que nous allons tirer de cette histoire? Ne pas avoir peur, puisque le Seigneur est avec nous. Dire également, rien ne peut résister au Seigneur. Rien ne peut prendre les enfants de Dieu et les arracher des mains du Seigneur. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dire également comme leçon, dans les tempêtes, Jésus fait quelque chose. Il a calmé la tempête, il fait quelque chose. À moi d'ouvrir mes yeux et mes oreilles. Dire également comme leçon, nous avons des troubles et des tempêtes malgré la présence de Jésus. Des chrétiens m'ont dit, avec Jésus, vous n'aurez aucun problème. Moi, je dis, avec Jésus, nous avons des problèmes. Amen, oui, ça bouscule parfois, ça chavire, mais ça ne coule pas. Jésus n'a pas promis une traversée facile, mais il a promis une arrivée certaine. Amen. Et puis dire aussi eh bien, que dans notre vie chrétienne, il y a des nuits parfois obscures. On ne sent plus, je ne sens plus Dieu, comme si Dieu était sensible, il faut le sentir. Je ne sens plus Dieu, je ne vois plus, je ne comprends plus. Nous avons toutes ces choses, mais le Seigneur est dans la barque et il dort et on va le réveiller. Amen. Se dire aussi que les vents, la mer, tous les dangers de la vie obéissent au Seigneur. J'ai entendu des gens me dire, mais est-ce que Dieu peut faire ça? Tout obéit à Dieu. L'univers, chaque atome de la création est soumis au Seigneur. Et puis dans ce miracle, il y a quelque chose qui est nouveau pour les apôtres. Parce que les apôtres, ils ont vu des guérisons d'aveugles, de boiteux, de lépreux, de paralysés. Mais ce n'était pas eux, ce n'était pas pour eux les miracles. Mais ce miracle, il est pour eux. Et je crois que dans notre vie, il nous faut des miracles pour nous, pour qu'on puisse dire, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a touché, le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Et là, il a fait un miracle pour eux. Et puis dans cette histoire, j'aimerais aussi vous dire une des leçons. Ils ont expérimenté l'angoisse. Vous savez ce que c'est l'angoisse ? La peur chez les malades. Parce qu'ils ont vu autour d'eux des malades, des gens qui criaient « Ma fille est à l'extrémité, ma petite fille va mourir, etc. » Ils ont vu tout cela. Mais dans la tempête, là, ils ont expérimenté de près la peur que les malades connaissent, que les parents connaissent. Et puis, ça a donné une reconnaissance qui les a liés davantage au Seigneur, parce que le Seigneur a fait quelque chose pour eux. Peut-être aussi que dans cette tempête, ils ont mesuré leur fragilité. Parce que ces grands gaillards, pas malades du tout, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, ils ne savent pas tellement ce que c'est que la fragilité. Il disait peut-être la fragilité, c'est pour Bartimée, le mendiant, l'aveugle, c'est pour le lépreux, c'est pour le paralysé. Et là, ils ont vu qu'eux aussi étaient fragiles. Nous avons besoin de faire l'expérience de la fragilité pour comprendre les autres. Mais les épreuves de la vie sont là pour nous mettre à l'école. Je vois dans cette histoire la tactique du diable. Le diable veut nous éloigner du Seigneur, avec des occupations, des jeux, beaucoup de plaisir, beaucoup de vacarme, beaucoup de bruit. Et le Seigneur, lui, il veut nous éveiller à sa présence. Il veut nous dire, quand tu pars en vacances, je suis avec toi. Quand tu chutes, je suis avec toi. Quand tu ne dors pas de la nuit dans l'angoisse, je suis avec toi. Je suis toujours là, dans ta compagnie. J'aime ta présence. On chante au Seigneur, mais le Seigneur pourrait nous le chanter. J'aime ta présence, mon enfant. Tu es avec moi toujours. Amen. Ça, c'est l'école de la foi des apôtres. La tempête apaisée. Que Dieu apaise nos tempêtes. Amen. Mais que, surtout, on apprenne quelque chose du Seigneur. Maintenant, je vais vous lire un autre texte dans Matthieu, chapitre 2. Brièvement parler des gens un peu étranges qui sont à l'école de la foi aussi, qui s'appellent les mages. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera, qui dirigera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Jamais vu une étoile s'arrêter. Elle n'était pas loin. Hein. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur chemin, leur pays, par un autre chemin. Amen. Là, je vais vous donner une deuxième leçon sur la foi. La foi, c'est chercher. On a trouvé le Seigneur, amen, oui, mais au moment où on l'a trouvé, on commence à le chercher. C'est vrai ou c'est faux? On commence à aller plus loin avec lui. Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent. Actes des apôtres. Et les mages, pour moi, représentent la foi comme une recherche de Dieu. La foi, c'est rechercher Dieu. Vous n'avez pas remarqué qu'ils viennent du même pays qu'Abraham? Et Abraham, le premier, nous a montré ce que ça veut dire la foi. La foi, c'est se mettre en route. C'est jamais s'arrêter. C'est chercher. C'est le suivre. Et quand on le suit chaque jour, on avance chaque jour. Chaque jour, on doit avancer. On n'avance pas que le dimanche matin. Chaque jour, on fait des pas avec lui. Mais pour chercher quelque chose, il faut arrêter tout. Quand je cherche mes clés de voiture, ça m'arrive, pas vous, jamais, ben, j'arrête tout. J'arrête de regarder la télé, que je ne regarde pas d'ailleurs. J'arrête de faire ce que je fais et je cherche mes clés. Je crois que pour chercher, il faut quitter. Quitter ce que nous sommes. Quitter l'homme ambitieux que nous sommes. Quitter l'égoïste que nous sommes. Le coléreux que nous sommes. Quitter peut-être l'homme injuste, la femme injuste. Quitter tout au fond de nous-mêmes ce qui est la mauvaise nature. Parce que ce n'est pas de changer de ville qui compte. Ce n'est pas de changer de pays. C'est de changer, c'est de partir de soi, quitter au fond de soi, quitter ce qui est mal en nous. Dire stop, stop à sa mauvaise nature. Stop à ses injustices, à ses vengeances, à ses colères. Et puis dire, Seigneur, maintenant, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Où es-tu, Seigneur? C'est du travail, je vous assure. La foi, ce n'est pas dire amen, c'est simple. Il faut chercher, il faut être tenace. C'est quotidien, c'est régulier. C'est chaque jour que je lis la Bible. Et vous aussi? Chaque jour. Le matin, le soir, et le midi aussi. Amen. Les mages, regardez les mages. Ce n'étaient pas des chrétiens, les mages. Hein. Un peu astrologues, des astronomes aussi, des scientifiques, c'est vrai. Mais ils sont partis pour des semaines de voyage. Ils ont cherché. Ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ont dû s'organiser parce que pendant des semaines, qu'est-ce qu'il faut faire pendant des semaines? Bien, il faut bien manger. Il faut de la nourriture, il faut des stocks. Il faut prévoir le coucher, il faut prévoir tout. Traverser le désert et puis ils ont été manipulés par Hérode. Donc il faut un effort constant. De la volonté pour chercher le Seigneur. Moi, je crois que la volonté fait partie de la foi. Jésus disait que celui qui veut, vienne. Parce que si on vous dit non, ben, vous ne pouvez pas venir. Que celui qui veut, vienne. Jésus disait souvent à des malades, veux-tu vouloir, veux-tu être guéri? La foi demande des efforts. Mais merci Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Hein. Les mages avaient l'étoile pour les guider. Et Abraham avait la voix de Dieu qui lui parlait. Notre étoile à nous qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, le jour et la nuit, c'est la Bible. Amen. Notre étoile. Et puis la voix de Dieu qu'il faut écouter, c'est la Bible. Amen. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous parle. J'ai déjà vu un organiste, enfin, plusieurs fois, un organiste jouer dans une église. J'étais à côté de lui, puis jouer du Bach. Oh, il y avait des claviers, des touches partout, des pistons. C'est extraordinaire. Des dizaines. Mais je remarquais qu'il n'utilisait pas tout en même temps. Il n'a pas 30 bras. Il en utilisait 3 ou 4 notes seulement. Je crois que Dieu, il a des milliers de paroles à nous dire. Des dizaines de milliers. Mais il va nous en dire une. Il va souffler dans cette parole. Et quand on va l'entendre dans notre cœur, on dira « Dieu m'a parlé ». Parfois, les gens me disent « Ah, je ne pourrais pas tout lire dans la Bible ». Lisez un peu et Dieu vous parlera. Amen. Avec une parole, Dieu souffle dedans et vous entendez sa voix. C'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous cherchons, la recherche, hein, tout ce que nous cherchons est écrit dans les Écritures. Pas dans nos rêves, pas dans nos idées, dans les Écritures. Et quand les mages sont arrivés à Jérusalem, il est où le roi des Juifs? Ben, ils ont ouvert la Bible. Ils ont dit, ben, il est à Bethléem. Eh bien oui, c'était vrai, il était à Bethléem. On doit passer par les Écritures. Que le Seigneur nous éveille. Amen. Alors, je crois que le Seigneur nous dit, cherchez un peu plus quand même. Je crois qu'il va nous reprendre parfois. Peut-être même que parfois il est triste. Il est triste parce qu'on ne lui parle pas assez, on ne le cherche pas. C'est comme si dans une maison, le mari dit jamais un mot à sa femme. Jamais bonjour, jamais bonsoir, jamais merci. On se croise dans les couloirs, on ne dit jamais bonjour, on ne se parle pas. Vous ne trouvez pas que ce serait triste pour la femme? Peut-être que le Seigneur, avec lui, il nous voit comme ça. On se croise, on le voit de loin, amen, puis on ne lui parle jamais. On se contente de peu de choses. Le Seigneur pourrait nous dire, est-ce que je vous fatigue? Est-ce que je vous lasse? Est-ce que je vous ennuie? Pour que vous ne me disiez jamais bonjour? Pour que vous partiez au travail sans prier? Pour que vous alliez dans votre journée sans remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous? Amen. Est-ce que je vous fatigue? Mais il y a des tempêtes, amen, qui nous réveillent et qui nous permettent de dire, Seigneur, sauve-nous. Il faut chercher. En 1492, Christophe Colomb a découvert les Amériques. Formidable. Hein, et quand, en arrivant dans la nouvelle terre d'Amérique, Christophe Colomb n'a pas dit, bon, ça y est, les enfants, on est arrivés, on rentre, c'est fini. Vous avez vu? Parfait, on retourne. Ils ont cherché, exploré, ils ont découvert, ils ont construit, ils ont bâti, ils sont installés. Le Seigneur ne nous dit pas, maintenant que vous êtes convertis, cherchez plus, c'est fini, c'est bon. Cherchez. Le Seigneur nous a donné la soif qui ne guérira jamais. La soif de lui. Vous avez soif de lui? Je crois qu'il ne faut jamais dire, Seigneur, je suis rassasié. Quand un mari dit à sa femme, je suis rassasié de toi, ça veut dire, j'en peux plus, arrête. J'ai toujours faim, j'ai toujours soif, Seigneur, de ta présence. Et les mages, quand ils ont vu l'étoile qui brillait dans leur pays, ils n'ont pas dit, tiens, il y a un roi qui est né en Judée, vive le roi, amen. Non, ils se sont mis en route, ils ont voulu le voir, ils ont voulu lui faire un cadeau. Ils se sont prosternés, ils ont rendu hommage. Ils ont voulu voir à quoi ressemble la grandeur de Dieu, un petit enfant. Ils n'ont pas dû comprendre, bien sûr. Moi, je comprends maintenant. Ils ont vu l'incarnation de Dieu qui est venu se faire homme pour que nous soyons enfants de Dieu. Amen. Eh bien, frères et sœurs, dans la foi, Jésus nous prend en charge. Il nous éduque, c'est notre moniteur. La foi, c'est une relation d'amitié. La foi, c'est une relation d'écoute, de découverte, de confiance, de confidence. Vous faites des confidences à Dieu. Tu vois, Seigneur, là, je suis un peu perdu, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi. Des petites choses. La foi, c'est une relation d'amitié. Le Seigneur ne veut pas des croyants qui lui disent deux mots par jour. Il veut qu'on vive avec lui tous les jours, dans les tempêtes, les voyages, la recherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour l'école de la foi. Merci parce que tu nous apprends à te faire confiance, à te chercher et à te trouver. Et quand nous t'avons trouvé, nous avons soif d'une chose, te chercher encore. Parce que tu es si grand, infini. Et avec toi, nous pouvons vivre tous les jours de l'éternité, de découverte en découverte. Seigneur, enseigne-nous la foi. Donne-nous la foi face à toutes les difficultés qui nous environnent. La foi qui triomphe, qui est plus forte que les choses du monde. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Je crois que Dieu entend cette prière. Augmente-nous la foi. Amen.